Bonsoir. Donc la Bibliothèque publique d'information est très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette première date du nouveau cycle reportage état des lieux que nous lançons. Je vais laisser Christine, avec qui nous avons travaillé à ce cycle, vous le présenter et ensuite on vous parlera un peu plus de cette première soirée.
Bonsoir. Donc ce cycle reportage s'articule en plusieurs volets. Un volet ici en petite salle avec donc des grands entretiens et ensuite une programmation de débats autour des enjeux du reportage aujourd'hui. Et puis un autre volet dans la bibliothèque, dont l'approche des collections d'actualité que nous avons à la bibliothèque, qui est un format plus court de rencontre entre un journaliste et son public sur son métier, sa carrière, etc. Alors, pour retrouver les informations, vous avez notre Actu Bibliothèque, donc, qui est notre petite publication mensuelle, ou l'agenda de notre site web.
Alors pour ce soir, cette première date, nous sommes vraiment très heureux d'accueillir Delphine Minoui et Samuel Forêt, qui nous fait le plaisir d'ouvrir cette date. Alors Delphine Minoui, qui ensuite présentera mieux Samuel. Donc voilà, Delphine Minoui, je voulais juste dire qu'elle était grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, et vous signaler qu'elle vient de sortir un ouvrage, Au Seuil, les passeurs de livres de Daraya. Voilà, que je vous invite très prochainement à retrouver, bien entendu, dans la bibliothèque et sinon en librairie. Et donc, je laisse maintenant les rênes à Delphine Minoui qui va mener ce grand entretien avec Samuel Forêt. Merci.
Bonsoir et merci d'être venus si nombreux pour cette rencontre autour du grand reportage en compagnie de Samuel Forêt, prix Albert Londres et prix Bayeux. 2017 pour sa couverture exceptionnelle de la bataille de Mossoul en Irak. Quelques mots d'abord pour te présenter, Samuel. Petit Samuel, tu lis Tintin et les romans d'aventure. Tu te rêves même en Joseph Kessel, dont tu découvres l'incontournable Les Cavaliers à l'âge de 14-15 ans. Tu es fan de randonnée, passionné d'escalade et de voile. Et tu entres au CELSA en 2005 pour étudier le journalisme. Puis tu te décides à mettre le cap sur la Syrie pour y apprendre l'arabe. Mais si j'ai bien compris, à l'époque, c'était surtout pour impressionner une fille qui était tunisienne. Bref, la copine en question est vite oubliée, mais pas la politique. Et tout d'un coup, il y a cette envie folle de se plonger dans l'histoire d'un pays, de vivre au rythme de ses habitants. La coïncidence du destin, c'est qu'à Damas, tu lis l'histoire de la révolution de Michelet, une lecture quelque peu prémonitoire, puisque tu seras amené quelques années plus tard, en 2011, à couvrir les révolutions du printemps arabe et puis tous les soubresauts qui ont suivi. Mais nous n'en sommes pas encore là. Donc on va revenir d'abord à Samuel, l'étudiant, l'apprenti reporter, qui à l'époque donc rentre à Paris après son séjour à Damas, et qui cherche du travail. Alors Samuel, d'abord, peut-être qu'on peut commencer là-dessus. Comment se passe ton retour en France ?
Bonsoir, merci à tous d'être venus. Comment se passe le retour en France ? Il faut que je termine mes études et que je cherche un travail. Je rappelle le contexte, 2008, dans un contexte de la presse très déprimé, la crise arrive. Et là, je commence à chercher du travail à ce moment-là. Et effectivement, c'est très difficile. Et même si je suis passé par une école de journalisme, le milieu de la presse reste un milieu que je connais mal et dont j'ai du mal à comprendre les règles. Donc j'avance peu à peu et je me mets à travailler de façon la plus régulière pour Télérama Sortir, qui est une publication dans laquelle je... me spécialise plus ou moins dans les activités de plein air, que faire dehors, en dehors de Paris, que faire dehors les week-ends, etc. Et j'ai gardé un excellent souvenir de cette expérience. Et j'ai toujours mis, j'y mettais la même énergie que lorsque j'étais en Égypte, que lorsque j'étais à Mossoul. Voilà. C'était une vraie école. Je suis passé aussi par un peu de presse quotidienne régionale, ce qu'on fait tous dans le journalisme, parce que c'est vraiment l'école de formation, c'est le béaba en fait du journalisme. Et pareil, avec la même volonté d'essayer de découvrir, d'explorer. Il y a beaucoup d'exploration en fait dans notre métier, essayer d'aller jusqu'au bout d'un chemin, jusqu'au bout d'une investigation, jusqu'au bout de quelque chose.
Alors dans le journalisme, il y a différentes formes d'écriture. Et toi, très très vite, hein, on sent que tu te passionnes pour le reportage. Pourquoi le reportage et pourquoi l'idée de faire du grand reportage ?
Le journalisme, enfin, l'une des légitimités du journaliste, c'est d'être sur place et de rendre compte. On n'est pas des chercheurs, on ne passe pas des années à construire sur la même question sur laquelle on sera inattaquable. Notre légitimité, c'est d'aller sur place, sur un événement, de dire ce qui se passe. Et c'est cette valeur du reportage, cette valeur du fait de se rendre sur place, était pour moi passionnant et j'avais envie d'y aller parce que j'avais envie d'essayer de rendre des choses qui me touchaient suite à mes lectures, suite à ma sensibilité. J'avais envie de trouver une musique et puis aussi comme tout jeune garçon, de vivre des aventures et d'explorer et de voir comment l'herbe est verte ailleurs.
Donc on sent tout de suite il y a un attachement pour le reportage. Pour le récit aussi, on y reviendra un petit peu plus tard. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, tu décides à un moment donné de partir de France et d'aller t'installer en Égypte. Qu'est-ce qui a motivé à cette époque ce choix ? Et peut-être que tu peux aussi nous rappeler le contexte dans lequel tu es parti en Égypte.
Décembre 2010, le premier soulèvement en Tunisie. Le printemps arabe commence. C'est quelque chose de très fort, c'est fascinant. Je vois ça à distance et je suis étonné, je pense à partir. De ce milieu de la presse que je ne connaissais pas, où j'essayais de partir avec des commandes, là, je réalise peu à peu qu'il faut partir avant, bien sûr en essayant de faire attention à son intégrité personnelle, évidemment, mais il faut agir d'abord. Il faut agir et se rendre sur place et voir comment ça se passe sur place en essayant au maximum de travailler et de faire comprendre aux rédactions qu'on est sur place. Donc le printemps tunisien commence et c'est une sorte d'immense déferlante et on est tous très surpris et moi je me dis c'est incroyable et à peine le temps de réaliser que peut-être que je pourrais partir, etc. Ben Ali fuit en Arabie Saoudite c'était le 14 janvier si mes sont bons et moi je me retrouve à Paris et je me dis c'est passé mais peut-être que je pourrais aller voir les après, les soubresauts, les conséquences de cette chose énorme qui est le départ d'un dictateur. J'avais vécu en Syrie pendant un an pour apprendre l'arabe, pour découvrir ce que c'était cette région qui est essentiel dans l'actualité du monde, qui nous touche de très près, on le voit encore tous les jours. Je rappelle qu'à l'époque, quand même, la Syrie, en 2006-2007, il y a des gens qui me disaient « Mais au fait, c'est où la Syrie ? Je vois pas. » Ce qui est tout à fait normal. On n'avait pas de raison de s'y intéresser, d'une certaine manière. La Syrie était un peu oubliée, il ne s'y passait rien, d'une certaine manière. Il y avait un régime très sévère, qui tenait très ferme une population qui n'avait pas droit du tout à la parole et à la moindre expression. J'étais rentré de séjour à la fois émerveillé par le pays et émerveillé par toutes les qualités humaines que j'ai pu observer, mais dont je n'ai pas pu témoigner. Ça a donné des envies assez énormes, en fait. Quand j'ai vu, enfin, fort en plus, effectivement, d'emmener l'histoire de la Révolution française chez Michelet et me dire « Tiens, ce serait intéressant que ça se passe aussi dans ces terrains-là. » Fort de ces expériences, je me suis dit « Tiens, j'ai peut-être quelque chose à jouer là-bas, je parle un peu arabe, je connais un peu la région, je connais les thématiques, il faudrait y aller, j'ai quelque chose à proposer. » Voilà. Le 25 janvier 2011, le Caire se soulève. Pour la première fois, c'est plus des petites manifestations de quelques dizaines de personnes au milieu de centaines de forces de police, de forces de sécurité. Là, c'est le contraire. Le rapport de force commence à changer. Il y a quelques centaines, quelques milliers de personnes qui se retrouvent sur la place Tahrir, qui est l'épicentre de cette révolution, tout étonnés d'être là, et qui se disent « Ah tiens, il y a quelque chose qui s'est passé. » Vendredi 28 janvier arrive, le jour de la colère. Et là, pour la première fois dans l'histoire moderne de l'Égypte, c'est-à-dire depuis l'avènement de la République égyptienne en 1952, les policiers reculent face aux manifestants. Je vois tout ça chez moi, dans mon lit, le samedi matin. Je suis bouleversé, je me dis, mais il faut absolument que j'y aille. Je me pose même pas la question, donc je commence d'abord par voir si on peut dire toujours des vols qui partent vers le Caire. Je réserve un vol et puis je fais le tour de toutes les rédactions pour dire je pars. Évidemment, je n'intéresse personne, mais je me dis bon bah on va y aller, je vais y aller quand même et puis je vais voir sur place. Et là, j'arrive sur place quelques jours plus tard, le 3 février 2011. Il y a eu le Caire, donc il y a eu les premiers soulèvements. Une tentative de reprise en main par le régime, les forces de police qui disparaissent du Caire. Et j'arrive dans ce contexte-là, dans un incertain qui est à la fois assez angoissant, mais surtout exaltant.
Donc on imagine la volatilité de la situation quand tu arrives sur place, d'autant plus que, comme tu dis, tu ne comptes que sur toi-même. Il n'y a pas de rédaction, donc tu as un statut de pigiste, il n'y a pas de rédaction qui te soutient. Il y a ces manifestations, il y a la répression qu'on connaît, il y a les arrestations, il y a également les fameux mohabirat, les services de renseignement, ce qui vient à évoquer peut-être un de tes premiers articles que tu as écrit donc, dans le flot de cette répression post-élan de 2011. Donc je propose, avant qu'on poursuive notre conversation, d'écouter l'extrait donc, d'un de tes articles paru à l'époque dans le journal Le Point.
Au Caire, 55 minutes chez les Mouhabarat. Le Point, 28 décembre 2011. Extrait. C'est long une heure, surtout quand on ne contrôle rien. Je comptais approcher les manifestations par le sud de l'avenue Kas El-Heini, principal théâtre des affrontements hier. Au Caire, tout change en quelques mètres et quelques instants. Il faut se déplacer prudemment. Les autorités sont parfois des alliés, parfois des ennemis. Les civils parfois des ennemis, parfois des alliés. 14h45. Je bute sur un solide barrage. Des chevaux de frise, des barbelés, des dizaines de militaires bloquent l'avenue. Impossible de passer. Je tourne à droite, marche 50 mètres, quand un mouhabarat me rattrape. Un mouhabarat, littéralement un formateur, est un membre des services de renseignement. Par dizaines de milliers, ils forment une police politique implacable. Il leur suffit de montrer une carte pour faire taire n'importe quel Égyptien. L'agent civil me serre le bras, inutilement. Je ne compte pas m'échapper. Le problème des mouhabarat, c'est qu'ils sont aussi implacables que compétents. En admettant que j'arrive à m'enfuir, je n'irai pas très loin. Sans un mot, il me ramène au barrage. Nous le franchissons. Comme une policière. Je rentre maintenant dans une industrie policière immense et puissante, contre laquelle seul, on ne peut rien. C'est pour cela que le soulèvement de février a été si gigantesque. Il n'avait pas le choix. Il lui fallait être littéralement énorme. C'était la masse du régime contre la masse populaire. L'endroit dans lequel je me trouve maintenant, entre deux barrages de l'avenue Kasr el-Heini, est pour un temps une survivance de l'ancien régime, une sorte de commune policière où règnent des centaines de militaires, de flics et de mouhabarat. C'est comme si on m'avait jeté dans un fleuve dont le courant accélère sans cesse. La seule chose que je puisse faire, c'est surnager. Ça vaut bien une cigarette. Je l'allume face au doux soleil de décembre, pendant que mon mouhabarat parle avec un supérieur, à un grand costaud, avec un impair très stasi. Je suis journaliste, c'est mon métier. Il m'accuse. Je t'ai vu à la manifestation hier. Tu étais devant le Parlement. Tu prenais des photos. Bien sûr que je prenais des photos. Je suis journaliste, c'est mon métier. Tes papiers. Je leur fourre sous le nez mon passeport et mon accréditation égyptienne. Répondre aux questions, montrer mes papiers et attendre seront mes principales activités pendant les 3 prochains quarts d'heure. C'est ça la vie, dans une commune policière.
Alors, quand on couvre une post-révolution, on avance en permanence sur des sables mouvants. Donc toi, Samuel, dans ce contexte-là, d'ailleurs, On te voit, hein, dans la foule sur la photo qu'on vient de regarder. Comment tu t'organises? Comme tu le disais, donc tu es indépendant, tu n'as pas de rédaction qui te protège, qui te soutient. Comment tu, au fil du temps, tu arrives à acquérir peut-être des codes de survie? Comment tu gères ton quotidien?
Alors, là, le contexte, c'est quelques mois, effectivement, après la Révolution. La Révolution égyptienne qui reste pour moi l'un des moments fondateurs de ma vie d'homme. J'ai rarement vécu quelque chose de plus fort que ça. Et du coup, ça crée un attachement profond à l'Égypte et une sorte de... C'est difficile de vivre ces moments-là sans en être profondément touché. On est, bien sûr, on est journaliste et on essaye de faire notre travail de la façon la plus honnête possible. Mais quand on est confronté face à des vagues puissantes qui nous traversent, on peut qu'être bouleversé. Donc c'est pour ça que pendant des mois et des mois, j'ai essayé absolument de retourner en Égypte. Et là, en novembre, il y a une nouvelle vague d'émeutes qui recommence et à nouveau, le focus médiatique se replace sur l'Égypte et sur le Caire. Et à nouveau, j'essaie de partir. Et là, cette fois-ci, une amie qui ne peut pas partir au Caire me dit « Tiens, le Point cherche à envoyer quelqu'un au Caire. Est-ce que tu veux partir pour eux ?» J'ai dit oui, tout de suite. À ce moment-là, j'étais... en fait, je connaissais déjà le contexte, je connaissais déjà le pays, je connaissais déjà la langue. C'est l'une des premières préparations qu'on peut avoir déjà. Être préparé, être formé, savoir jouer avec... La meilleure façon de passer un checkpoint, la meilleure façon de franchir un contrôle, c'est d'en avoir passé une dizaine, une cinquantaine, une centaine, voire aujourd'hui, j'en suis peut-être à quelques milliers. Voilà. Arrive ce moment où je me fais arrêter. Et c'est ma première vraie arrestation, en tout cas en tant que journaliste, en Égypte. Et je me retrouve emmené par ces types, par ces mohabarats, que j'avais découvert depuis quelques années, notamment quand j'étais en Syrie, ces gens-là qui vous, avec des cuirs élimés et des chaussures fatiguées, qui vous posent des questions tout le temps, partout, par hasard, l'air badin. Et là, tout d'un coup, il y a l'un d'entre eux qui me prend par le bras et qui me dit « Suis-moi, je suis », en me disant « De toute façon, voilà, je fais mon travail, j'ai absolument rien à m'approcher. » Et il m'emmène dans ce qui est l'équivalent du Sénat égyptien. Les forces de sécurité égyptiennes s'étaient emparées de l'équivalent du Sénat pour en faire un endroit où ils arrêtaient, retenaient et tabassaient les manifestants. Il y avait du sang partout par terre. Je vois ça, je suis témoin de ça. Et dans ces moments-là, on est assez concentré, donc de toute façon, on se dit que ça va bien se passer. Et je suis retenu quelques dizaines de minutes. Et je ressors rempli d'une sorte rempli de cette expérience. Et j'écris ce papier. J'écris ce papier qui... j'ai toujours un certain attachement pour... on a un certain attachement pour quelques papiers parce qu'on les a écrits dans des circonstances particulières. Et ce papier-là, avec tous ses défauts, parce qu'il y en a beaucoup, j'ai toujours une certaine empathie, une certaine tendresse pour ce papier parce que c'est le papier d'un jeune journaliste qui est pris dans quelque chose, dans une chose à laquelle il est confronté pour la première fois. Et j'ai dû l'écrire en trois quarts d'heure, alors qu'il est quand même assez long. Et c'était, voilà, il y avait quelque chose de très très fort. Je ne pourrais pas écrire le même papier aujourd'hui. Évidemment, je ne réécrirai pas un papier sur une arrestation parce qu'on peut pas, on écrit à chaque fois qu'on s'est arrêté, malheureusement. Je reste quand même convaincu qu'il fallait écrire sur le fait que les services de sécurité égyptiens ont détourné l'un des bâtiments de la République égyptienne, un bâtiment officiel, pour en faire un lieu où ils tabassaient des manifestants et qui montrait à quel point ces services de sécurité considéraient qu'ils étaient chez eux partout. Voilà. Imaginez en France, si jamais à un moment donné, une sorte de police politique s'empare du Sénat, imaginez une seconde le scandale. Il faut remettre ces choses dans ce contexte-là. C'était ça qui m'avait porté pour ce papier à ce moment-là. Il y a des choses que j'écrirais plus comme ça, il y a des choses que je formulerais différemment. Mais en tout cas, il y a une matière brute dans ce papier que j'aimais bien. Voilà, une sorte de tension qui m'avait porté pendant l'écriture.
Donc, pour revenir à ce qui se passe après, est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu commences à acquérir une plus grande vigilance? Est-ce que tu changes certains codes de conduite? Est-ce que tu fais attention? Enfin, on sait que dans ces pays-là, c'est toujours compliqué aussi la protection des sources. On peut toujours se faire choper le téléphone portable par les fameux mohabarat, par les services de renseignement. Est-ce que tu changes certaines habitudes?
Alors là, j'ai été arrêté, pas du tout parce que j'étais fondeur et que j'approchais pas à pas. Et c'est un type qui m'avait repéré la veille et qui s'est dit, voilà. C'est délicat, il faut toujours, je pense qu'en tant que journaliste, il faut, notamment vis-à-vis des autorités, être toujours respectueux des autorités, parce qu'on est dans un pays, on est accueilli par ce pays, et essayer de jouer la carte la plus légale possible, avoir ses papiers à jour, avoir sa carte de presse à jour, être en mesure de prouver sa bonne foi. Parce que parfois ça marche quand on est surtout dans un pays très bureaucratique, ça marche de montrer une carte de presse. Voilà. Il faut néanmoins toujours chercher les limites, protéger son territoire, essayer d'aller là où les autorités ne veulent pas qu'on aille. C'était toujours un champ très très étrange, surtout pendant la révolution. La période révolutionnaire égyptienne qui s'est achevée en 2013, un espace très délicat où on ne savait pas très bien où étaient les lignes rouges, où il n'y en avait pas vraiment. Parfois, il y avait un raidissement soudain, parfois c'était la faute à pas de chance, etc. Donc on apprend à écouter son environnement, on apprend à faire très attention, à savoir marcher doucement, par exemple dans une manifestation, à faire attention quand on court. Parfois, il y a des mouvements de foule incontrôlables. Dans ces cas-là, la plupart du temps, il s'agit de rien de très grave. Il vaut mieux se mettre derrière une voiture et laisser passer la foule qui reviendra plutôt que de courir et de risquer de tomber ou d'être arrêté, d'être pris pour un manifestant. Voilà, il y a toujours cette sorte de recherche de cadre très ténu où il faut trouver la limite tout en faisant son travail et en respectant, en essayant de protéger son intégrité physique.
Alors, comme on le voyait sur cette photo, Samuel Fauré dans la foule, peut-être que tu peux évoquer aussi justement dans ces moments-là, on est seul mais on n'est jamais seul parce qu'on tisse aussi un réseau de solidarité avec d'autres reporters sur place. Et c'est ça aussi souvent la protection, quand on n'a pas la protection des rédactions, on a cette nouvelle famille journalistique qu'on crée sur un terrain glissant.
Exactement, c'est très important. On s'échange des informations, on s'échange des messages, on essaye de voir où est-ce qu'on peut aller, on essaye de voir... Ce qui est important, évidemment, on est concurrents, mais je crois qu'il faut essayer le plus possible, dans ce genre de terrain difficile, d'être le plus solidaire possible, comme dans n'importe quel milieu hostile, parce que à la fin, on gagne jamais trop à essayer de jouer la concurrence et le fait de retenir les informations, etc. Bien sûr, faut jouer sa partie, mais la solidarité est essentielle. Et je me souviens qu'on avait, c'était plus tard en Égypte, mais après les grandes répressions et après quand la pression sécuritaire s'est accentuée sur les journalistes, notamment l'arrestation de nos confrères d'Al Jazeera qui ont été retenus plus d'un an en prison pour dans le cadre d'une sorte de crise diplomatique entre le Qatar et l'Égypte. Il y a eu aussi des arrestations de journalistes qui sont aujourd'hui toujours en prison. Je pense à un photographe qui s'appelle Shao Kahn qui est toujours en prison depuis le 14 août 2013. Ça fait plus de 3 ans, plus de 4 ans. Dans ce cadre-là, on avait mis en place un réseau WhatsApp entre nous et on s'échangeait des messages régulièrement, simplement pour savoir où est-ce qu'on était, ce qu'on faisait et si jamais il y a quelque chose qui se passait, une sorte d'actualité qui se met en place, enfin une actualité qui commence et qu'il faut couvrir, chacun sait à peu près où on est. S'il y a quelqu'un qui disparaît, on est en mesure de réagir très vite. L'important, c'est toujours de réagir très très vite et de savoir où on est.
D'un autre côté, enfin, une autre partie de la bataille, c'est la, on va dire, c'est la bataille avec les rédactions aussi, essayer de, ben, de vendre tes sujets, de pouvoir en vivre. Comment ça se passe à ce moment-là pour toi ? Donc, tu travailles pour Le Point. À un certain moment, tu commences aussi à travailler pour Le Figaro. Est-ce que, à partir de quand, tu commences à vivre, à pouvoir vivre de ton métier, et comment tu te débrouilles au quotidien pour t'organiser dans ce travail ?
C'est très compliqué, surtout quand on travaille pour la presse écrite où c'est très mal payé. Le Point me faisait plutôt bien vivre quand il y avait beaucoup d'actualités. En fait, en tant que jeune freelance et surtout sur ces terrains-là, l'avantage c'est que Le Caire c'est une ville qui n'est pas chère. Donc ça a créé toute une génération, les révolutions arabes, et notamment au Caire. Et il y avait plein de jeunes journalistes qui venaient comme moi. Et qui s'essayaient et qui essayaient de gagner leur vie, de gagner leur pain, etc. Dans ce contexte-là, donc, je travaille pas mal pour Le Point, qui suffit à me faire vivre. Ensuite, Delphine Minoui vient me voir au Caire et me dit « Tiens, tu pourrais peut-être commencer à travailler pour nous, pour Le Figaro. On a besoin peut-être de numéro 2 ou si jamais tu vas sur d'autres terrains que Le Caire, etc. » Donc, peu à peu, on commence à travailler pour d'autres gens, on fait quelques remplacements ici et là, on s'entraide, on se donne des coups de main, etc. C'est très long, c'est très difficile, il y a beaucoup de précarité quand même. Il y a beaucoup de doutes du coup, on se dit mais pourquoi est-ce que je continuerai, pourquoi est-ce que comment je peux continuer dans ces conditions, surtout après un particulièrement mauvais mois. Et puis après, le mois d'après, il y a un truc qui se passe et tout à coup ça permet de se refaire. Il y a un côté il y aurait presque un côté chercheur d'or. Ceux qui faisaient le plus d'argent, ce n'étaient pas ceux qui allaient chercher l'or, ce n'étaient pas ceux qui allaient à la source de l'information et qui écrivaient. Ceux qui cherchaient l'or, qui faisaient le plus d'argent, c'était les vendeurs de pellets de pioche. C'est ça la règle de Jack London. Donc c'était un peu ça, non ? On était des chercheurs d'or. Alors parfois on tombait sur une pépite, parfois on tombait sur un filon. Généralement on dépensait tout très vite en 2-3 sorties. Et puis à nouveau on retombait à zéro. Et puis à nouveau on se disait ah, pff, mais où est-ce que je vais aller bosser, qu'est-ce que je vais faire et à qui je peux vendre ces pépites. Il y a presque ce côté aventurier qui est très sympa quand on a entre 20 et 30 ans, qui devient un peu fatigant quand on vieillit un peu. Mais j'en garde un souvenir assez ému de ces périodes où on se cherche, on essaye de comprendre quelle est sa place les uns par rapport aux autres. On découvre une famille, on découvre une sorte de nouveau monde et on essaye de s'appréhender avec ses petites mains.
Donc tu as utilisé le terme aventurier, en effet. On le sent dans l'évolution de ta carrière, la passion du reportage, la passion du métier te colle vraiment à la peau et tu ne veux pas te contenter de couvrir seulement la révolution égyptienne, tu veux aller voir aussi ailleurs ce qui se passe, ce qui te mène à un moment donné pour quelques mois en Turquie. Et une fois arrivé en Turquie, bien évidemment, il y a l'écho de la guerre voisine en Syrie et l'écho se fait de plus en plus retentissant jusqu'à ce que... Les journalistes suivent en direct de l'autre côté de la frontière la chute de Kobané qui avait été prise, donc cette ville kurde syrienne qui avait été prise par l'État islamique. Et donc une fois que Kobané est libérée, tu décides, ton instinct journalistique fait que tu décides de te rendre sur place. Donc on va continuer à en parler tout à l'heure et on va en profiter pour faire une nouvelle parenthèse de lecture avec un de tes textes, un de tes premiers articles rédigés une fois arrivé à Kobané.
À Kobané, le silence après le fracas des armes. Le Figaro, 28 janvier 2015. Extrait. Un livre traîne par terre dans le quartier du Martyr Moreau. Azad Ali, un jeune partisan kurde syrien, s'agenouille, le prend et commence à tourner les pages lentement. Il appartenait à mon père. Il porte sur les poètes arabes de la période anté-islamique. Les pages sont gonflées d'humidité, il n'y a plus de couverture. Il a été transpercé de part en part par une balle ou un morceau de shrapnel. Le livre se trouvait dans la maison d'Azad juste à côté. Mais la maison n'existe plus, elle a été aplatie par une frappe aérienne. Seuls deux arbres émergent encore, ils sont secs et morts comme tout alentour. Sur les lignes de front de Kobané, la ville n'est plus en ruine, elle est en miettes. La maison donne sur un petit carrefour. Une voiture piégée a fracturé le bitume comme un point géant. Azad se relève, autour de lui quelques rares maisons subsistent. Il ne leur reste que le squelette et les entrailles, comme les piliers de l'escalier intérieur d'une grande bâtisse à deux étages. D'un immeuble pend une immense plaque de béton retenue par quelques barres d'acier. Peut-être un tiers, voire la moitié de la ville est dans cet état. Avant la guerre, elle abritait environ 35 000 personnes. J'avais emménagé dans ce quartier avec ma famille quelques mois avant que Daesh attaque, explique Azad en faisant allusion aux djihadistes de l'État islamique qui sont arrivés aux portes de Kobané mi-septembre. À cette époque-là, plus rien n'était important, ni la maison, ni les meubles. Les combats se rapprochaient, il fallait partir. Ma famille est allée se réfugier en Turquie, je suis restée. Je suis devenue journaliste citoyen pour les canaux d'information du Kurdistan syrien. J'expliquais ce qui se passait ici, raconte Azad, 30 ans. Il se dirige vers son autre maison, celle où il a grandi. Il marche sur des pierres, des parpaings, des théières, des pelotes de laine, des pots d'échappement, des portes de maison, des portes de voiture, des câbles, des barres d'acier, des poupées. Il franchit une première tranchée, puis une deuxième. Sur les lignes de front, il y en a à tous les carrefours.
Donc là, avec ce reportage, on passe vraiment de la révolution à la post-révolution, la guerre. Donc une nouvelle configuration pour toi en tant que reporter. Comment s'est préparé ce reportage ?
Il faut remonter quelques mois avant. Ce reportage date de janvier 2015. En juin 2014, l'État islamique s'empare de Mossoul, la deuxième ville d'Irak, la grande ville du nord du pays, en quelques jours. Je vois ça et j'envoie un email à Delphine Minoui et je te dis j'ai envie d'aller voir ça et tu m'encourages à y aller. J'envoie un email au Figaro et je leur dis j'ai envie d'aller voir ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et là ils me disent on est plutôt pour, vas-y. C'était la première fois je crois que j'étais réellement envoyé par un journal couvrir une actualité. Pour la première fois, je m'envoie moi-même en reportage et je pars pour quelqu'un. Et alors là, ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que les frais sont pris en charge, qu'on n'a plus à payer l'hôtel. Ça veut dire que les frais de fixeurs et de traducteurs sont pris en charge. Les fixeurs, ce sont ces gens qui sont des passeurs sur le terrain, qui traduisent, qui expliquent, qui savent aller, qui ont les contacts, etc. Qui sont indispensables. Pendant des années, en comptant sur mon arabe, je ne travaillais sans fixeur, je travaillais tout seul. Je me débrouillais, j'allais poser des questions aux manifestants. Quand il y a un mot que je ne connaissais pas, je regardais dans le dictionnaire avec eux. Ça créait un super contact, mais c'était très prenant. Ça prenait beaucoup de temps. Avec un bon fixeur, tout est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Voilà. Et là, ça va très. Voilà. Là, j'arrive en juin 2014, donc effectivement à Erbil, qui est à 70 km de Mossoul, c'est à côté. Erbil, c'est la capitale du Kurdistan irakien, c'est la capitale des Kurdes. Le Kurdistan irakien en Irak, c'est une zone stable, c'est une zone qui est relativement sûre et à partir de laquelle on peut opérer. Et de l'autre côté, il y a un nouvel espace qui se crée. Il y a des types en drapeau noir qui se sont emparés de villes entières en quelques semaines. Et tout d'un coup, qu'un nouvel ennemi qui était là depuis assez longtemps, mais apparaît à la face du monde. Donc j'ai la chance de couvrir cette actualité, de couvrir aussi, même si j'étais allé faire quelques terrains de guerre, j'étais allé notamment en août 2012 pendant la guerre civile à Alep, j'étais allé en novembre 2014, c'était après d'ailleurs, une offensive de l'armée israélienne pendant une semaine à Gaza. Mais là, c'était la première fois que je découvrais en fait ce que c'était qu'une guerre. Je connaissais les révolutions, je connaissais le monde arabe, je connaissais pas la guerre et je connaissais pas l'Irak. C'était la première fois que j'arrivais en Irak. Donc voilà, on est très modeste, on essaye de comprendre. C'est là que je fais la connaissance d'un fixeur qui est devenu un ami, c'était Bakhtiar Haddad qui ensuite a perdu la vie à Mossoul il y a quelques mois. Et Je découvre cette actualité, je m'aperçois que, voilà, qu'il y a là quelque chose de, à nouveau passionnant, un ennemi sans scrupules qui essaye d'imposer une idéologie suprémaciste au Moyen-Orient, ce qui n'a jamais été vraiment vu. Le Moyen-Orient, il y a des dictatures, il y a eu des tentatives démocratiques, etc. Mais une idéologie suprémaciste totalitaire, on n'avait jamais vu ça. Donc ça m'intéresse et j'ai envie de voir ça. Pour voir ça, et c'était plus facile d'opérer d'Istanbul, de Turquie. Je propose de m'y installer pour faire un intérim, et je savais que Delphine allait arriver quelques mois après, donc j'y ai passé 6 mois. Je m'installe, 10 jours après, Kobané chute. Kobané, c'est essentiel. Kobané, c'était... on a voulu y voir, là, un traitement pro-kurde de la part des médias. Il y avait une partie de ça, mais surtout, Kobané, c'était la première grande défaite de l'État islamique, avec l'aide de la coalition, et la mise en place d'un système, surtout, un système qui s'est ensuite mis en place dans tout le cadre de la guerre contre l'État islamique, quels que soient les terrains, qui sont... on s'appuie sur des forces locales, soutenues par la coalition, menée par les États-Unis. Voilà, donc c'était pour ça que Kobané était super intéressant. Et c'est pour ça aussi que Kobané, c'était un terrain étrange, parce qu'on n'y avait pas accès. On voyait, en fait, la ville se faire bombarder, pilonner. La guerre se passait sous nos yeux. Nous, on était à quelques kilomètres du côté turc, parce que la ville était collée à la frontière turque. C'est une ville kurde syrienne collée à la frontière turque. C'est une ville qui a une histoire assez intéressante. C'est une ville qui s'est créé autour d'une petite compagnie de chemin de fer. Kobané vient du mot compagnie. Là, il y avait une gare. Et ensuite, c'est là que les Kurdes ont fui les premières répressions turques en 1925. Donc, c'est une ville qui a une très forte valeur symbolique pour les Kurdes. Voilà. Janvier 2015, le 29, ils sont bons. Les dates importent, toujours. Kobané tombe. Et là, on découvre, en fait, ce que je vais découvrir tout le temps, partout, après, des tas de ruines, des tas de ruines, des tas de ruines. C'est là qu'on découvre que pour reprendre du terrain à l'État islamique, il va falloir y aller avec toutes ses forces possibles. On est là face à un ennemi qui veut résister jusqu'au bout. Et là encore, c'est exceptionnel. Il y a pas de négociation. Non, il faut aller. Pour les forces occidentales, il faut le détruire. Donc tout ça se passe sous nos yeux. C'est pour ça que c'était essentiel d'y aller. Et je pars. On voit ce terrain là.
Peut-être que tu peux expliquer comment tu y vas, comment tu traverses cette frontière qui est quand même encore très sensible. Cette frontière entre la Turquie et la Syrie.
C'est assez bizarre parce que. À cette époque, il y avait une sorte de paix froide entre les Turcs et les Kurdes, entre les Kurdes pro-PKK qui contrôlaient Kobané et les Turcs. Voilà. La Turquie interdisait tout passage pendant des mois. Et là, d'un coup, ils décident d'ouvrir le passage. J'y vais avec quelques journalistes, notamment un ami de France Info. C'est toujours bien de faire équipe à ce moment-là. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un avec qui s'appuyer. C'est toujours bien d'avoir... Si on sait qu'on fait une bonne équipe, on a, au lieu d'avoir 2 yeux et 2 oreilles, on a 4 yeux et 4 oreilles. C'est toujours mieux que d'être plus limité. Voilà. Et on part. Et là, on va voir le préfet du coin qui dit « Vous y allez, vous restez 2 heures. » On dit « On peut rester 24 heures ?» Et au bout de quelques minutes, le type là, je dis « Ok, passez la nuit et vous revenez à la première le lendemain matin. » C'est comme ça qu'on découvre cet endroit et c'est comme ça qu'on rentre plus en profondeur et c'est comme ça qu'on entend le silence. C'est très important dans la guerre, le silence. On en parle très peu, jamais assez dans les papiers, je trouve. Comme j'ai eu l'occasion d'écrire pour l'exposition d'un ami photographe dans lequel on voit le silence dans ses photos, la guerre chasse la vie comme un feu de forêt chasse la faune et détruit la flore. Donc on est dans des territoires où la vie a été désertée, où tout a été réduit en miettes. Et on découvre cet espace et on essaye de trouver une histoire. Et c'est là où on commence aussi à progresser un peu en tant que journaliste. Au début, on arrive sur une actualité. On prend l'actualité, on prend l'événement en pleine face, on ne comprend pas grand-chose, on regarde ses pieds, on se dit qu'est-ce qui se passe, qui, quoi, comment, on fait à la base, on essaye de vraiment, voilà. À part, quand on devient un peu plus expérimenté, on voit comment on peut traiter l'actualité du mieux possible pour, on peut expliquer, et il faut expliquer, mais pour commencer à raconter. C'est-à-dire, c'est le moment où on commence à aller prendre le lecteur par la main et l'emmener dans une situation qu'il ne connaît pas, et faire cette pédagogie et cette façon d'expliquer où on va commencer à toucher des choses à l'intérieur. On est là pour voir sur une zone, pour voir des personnages, pour voir des narrations, pour voir des histoires. On n'est pas forcément là pour expliquer et faire des analyses. C'est ça, on n'est pas des chercheurs. On est là pour expliquer, pour raconter. Il faut le connaître, bien sûr, et sans faille, tout le background historique, politique. Mais on est là pour essayer de raconter des histoires, essayer de transmettre des choses d'une certaine façon et ancrer ces histoires dans un récit. C'est un vrai défi. Et parfois, sur certains terrains, à quelques moments particuliers, au lieu de regarder ses pieds, au lieu de prendre un vêtement en pleine face, il y a quelque chose qui se passe, c'est assez mystérieux. On entend quelque chose, on voit, on entend une petite musique et on commence à la suivre. Et là, on voit une histoire se dérouler sous ses yeux. Et là, on se dit, ah, ça y est, c'est comme ça que j'ai commencé l'article. C'est comme ça que je l'ai continué. Lui, c'est un personnage. Il existe comme ça. C'est intéressant. Tiens, il y a un nouveau personnage qui entre. Et voilà, il y a une narration qui se met en place. Et là, il y a une certaine façon de raconter, d'expliquer une situation par une histoire, ce qui est toujours beaucoup plus agréable pour des lecteurs.
Donc, raconter la guerre à hauteur d'homme. Kobané, c'est le moment où tu quelque part bascules progressivement, même si peut-être que, enfin, j'imagine que c'était pas décidé d'avance, mais où tu bascules du reportage au reportage de guerre. Tu parlais de petite musique dans la tête. Tous ceux qui ont fait des terrains de guerre ont également une autre petite musique qui est la peur, qui est une compagne encombrante, mais qui existe aussi sur ces terrains-là. Comment toi, Samuel Fauré, tu vis ça quand tu es là-bas ?
C'est un autre espace. On commence à découvrir les règles. Au début, comme dans n'importe quel nouvel espace, nouvel environnement, on ne connaît pas les règles. Et souvent, on a peur. Et puis, peu à peu, on s'habitue. On voit, ah oui, si les tirs viennent de là, je sais que je peux me mettre là et je sais que je peux être tranquille. Si on entend des bombardements, on sait à peu près d'où ça part. Et on peut se mettre à l'abri. Donc, au début, pareil, de la même façon, on regarde ses pieds, on n'est pas habitué à sur le terrain et on a peur. Puis peu à peu, on s'habitue. Puis surtout, ce qui porte là-dedans, bah, c'est le travail. Ce qui porte là-dedans, c'est de se concentrer sur son travail et d'être vraiment à l'écoute de tout, à l'écoute de son environnement, etc. Et du coup, quand on travaille, c'est simple, on n'a pas peur. Quand des pompiers vont faire ou des gendarmes vont faire de la du sauvetage en haute montagne, ils sont concentrés sur le travail, ils ont pas tant ils assurent leur sécurité bien sûr, mais je sais pas s'ils ont le temps de se demander s'ils ont peur. Il y a eu des moments bien sûr où je me suis retrouvé dans des situations où qui étaient véritablement effrayantes, mais tant qu'on est porté par le travail. J'imagine que c'est un peu comme le trac pour un comédien. Tant qu'on est sur scène, ça va, ça tient. Et c'est important de se concentrer là-dessus parce que ça permet de se concentrer sur le travail, se permet de se concentrer sur l'environnement, se permet aussi de ne pas être tétanisé parce que ça, c'est l'un des effets les plus dangereux de la peur, d'être en sidération et de ne pas savoir agir. Non, quand on travaille, au moins, on est concentré, on sait percuter, il faut bouger, il faut se protéger. Voilà, c'est l'une des façons dont on gère ça avec le terrain et j'allais dire malheureusement, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas si c'est malheureusement, parce que malheureusement, c'est surtout pas nous, c'est surtout des centaines et des milliers de personnes qui vivent dans des terrains. Et eux, ils n'ont pas le choix. Moi, j'ai fait le choix de partir là-bas. Eux n'ont pas le choix et vivre dans un état de peur permanent. C'est avant tout à eux qu'il faut penser quand on est sur ces terrains-là.
Alors, on sait qu'aux États-Unis, par exemple, chaque reporter qui part couvrir une guerre doit impérativement suivre une formation pour se préparer au risque, pour se préparer au danger, se préparer à un éventuel enlèvement. En France, c'est beaucoup moins généralisé, même si ça commence progressivement à être plus intégré dans certaines rédactions. Donc toi, à ce moment-là, c'est à ce moment-là aussi, je pense, que tu as, Tu as suivi une formation, mais c'était ton choix personnel. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu.
Effectivement, là, il y a plusieurs types de formations pour les journalistes en zone de conflit. Et c'est apprendre à se comporter, apprendre à identifier les pièges, apprendre à se repérer sur des terrains difficiles. Voilà. J'ai fait une formation en novembre 2014, si je me souviens souvent, qui est faite par l'armée française, où ils apprennent ce genre de choses, et à apprendre à faire un garrot, secourir quelqu'un, ramener quelqu'un, etc. On fait ce genre de formation, et on apprend l'importance d'être bien protégé, effectivement, de se protéger, de mettre des gilets pare-balles, de mettre des casques, etc. Ça correspond au fait de vouloir garantir effectivement son intégrité physique et de pouvoir travailler plus efficacement et dans de meilleures conditions de sécurité. Ces formations sont plutôt bienvenues. Après, il faut faire attention aussi, je pense, à ne pas trop militariser les journalistes. Nous sommes des civils. Quand on parle des civils et qu'on est habillé comme un militaire, le premier regard du civil, de la personne qui est en face, que va poser sur toi, il va voir un militaire. C'est pour ça que c'est important, je pense, de bien se différencier des militaires avec les éventuels dangers que ça peut comporter, mais de bien se différencier des militaires pour bien faire comprendre aux gens que non, on ne fait pas forcément partie du camp avec lequel on vient, mais on les accompagne. Mais c'est pas plus que ça. Et là, on essaye de mettre en place une relation personnelle. C'est très difficile. C'est très difficile de faire tout ça à la fois. C'est pour ça que dès que le danger s'éloigne, il faut enlever ses gilets, il faut enlever ses casques et il faut se présenter aux gens en tant que voilà, je suis journaliste, je ne suis pas. Je suis pas de G.I. Joe qui n'est intéressé que par le pif-paf. Je suis intéressé par l'histoire des gens qui vivent cette guerre. Je suis intéressé par l'histoire des militaires et des soldats qui vivent cette guerre. Je suis intéressé par l'histoire des civils, des gens qui vivent cette guerre aussi.
Alors, quand la bataille de Mossoul commence en Irak contre Daesh, pour toi, il y a une évidence qui se présente. Hein. Tu te dis... je veux aller couvrir cette bataille. Qu'est-ce qui te motive à ce moment-là à passer à cette histoire ?
C'est un moment assez particulier. J'étais au Caire. C'était difficile Le Caire était... c'était vers 2016. Le Caire était sorti de l'actualité. Donc pour un journaliste, si je filais la métaphore de tout à l'heure, le filon était tari. Et je ne voyais pas vraiment d'espace ailleurs. L'Irak et le Kurdistan irakien que je connaissais bien me semblent intéressants. Et je décide d'aller là-bas l'été 2016. Et vraiment dans l'idée de rentrer dans cette guerre et de rentrer dans cette guerre qui s'annonce, qui sera la bataille de Mossoul, qui est l'une des plus grandes guerres urbaines de l'histoire moderne, l'une des plus grandes guerres urbaines depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle s'annonce cet été 2016. Je m'empare de cette actualité et là, avec le travail, je reprends contact avec le terrain et à nouveau, ça va mieux. J'ai envie de... Alors que j'étais passé par une sorte d'épisode épuisé au Caire où il n'y a rien qui se passait et le pire, en fait, pour un journaliste, c'est de se morfondre en essayant de proposer des papiers qui n'intéressent personne. Là, au moins, je me battais pour une chose, pour faire des papiers qui, j'espère, allaient toucher tous les gens. Et j'ai réussi à faire mon travail. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me dire, ça fait 6 ans que je suis au Moyen-Orient. Je suis passé par la révolution égyptienne, je suis passé par la répression de la révolution. J'ai vécu des choses très fortes, il serait peut-être temps de raccrocher. Il serait peut-être temps au moins de ne plus vivre au Moyen-Orient, mais trouver un autre endroit. Finissons cette expérience au Moyen-Orient en allant couvrir la bataille de Mossoul. C'est pour ça que je me suis installé là-bas. Et j'avais décidé, et fort de toutes ces expériences que j'avais accumulées avant, et avec cette réelle envie de... voilà, je vais essayer de terminer la meilleure des façons, essayer de rendre le plus justement possible cet événement immense qui s'annonce.
Je propose qu'on écoute un de tes reportages sur Mossoul qui t'a valu le prix Albert Londres et le prix Bayeux.
À Mossoul, face aux voitures suicides de Daesh, 29 mars 2017, Le Figaro, extrait. C'est encore l'un de ces instants où l'on joue sa vie. Les hommes du bataillon du Scorpion, d'un même mouvement, bondissent d'une maison en ruine. Ils courent à découvert à travers une avenue tenue par des snipers djihadistes. Alors qu'un blindé fait feu pour couvrir leur course de 200 mètres, ils évitent les débris, sautent les fossés, passent au-dessus d'un chemin de fer, s'engouffrent à l'abri et respirent, enfin. L'abri, ce sont de solides galeries de béton armé, d'anciens ateliers d'artisans métallurgistes. Les hommes s'installent dans un atelier de chaudronnerie. Le bataillon du Scorpion fait partie de la 2e brigade de la division de réaction rapide, les forces spéciales de la police irakienne. Entraînés par des conseillers américains, ces hommes ont été de toutes les batailles, surtout depuis que l'État islamique s'est emparé de Mossoul en juin 2014. Dans l'atelier, la lumière du soleil raye durement l'obscurité poussiéreuse. Tafer Abdelazim, gueule balafrée, le tir d'un sniper djihadiste à Ramadi, explore l'endroit. C'est une bonne position, bien protégée. Les hommes piétinent dans les débris, à la recherche de pièges explosifs, quand un appel retentit. Il faut bondir, quelque part, à l'abri, se coucher, s'accroupir, se boucher les oreilles, attendre le coup de tonnerre. Une voiture suicide a surgi. Ces bombes roulantes de l'État islamique, remplies d'explosifs, rôdent dans Mossoul pour exploser à proximité des troupes. Les plus puissantes peuvent raser des bâtiments entiers. Elles terrorisent ces hommes, pourtant aguerris. L'explosion vient, sourde et puissante. Elle déforme les rideaux de fer, balaye les tôles d'acier, soulève une épaisse couche de poussière. Les hommes ouvrent ensuite les yeux, se regardent, regardent les autres. Quant à faire, hurle, retournez à vos postes pour éviter une attaque meurtrière. Personne n'a été tué, un miracle. L'explosion n'était pas puissante, sinon nous serions tous morts, dit un soldat. À 20 mètres, dans l'une des venelles de la galerie de béton, un morceau de carcasse brûle. Derrière, un corps fume. C'est celui du kamikaze.
Là, tu nous emmènes vraiment en plein cœur d'un nouveau type de guerre. Guerre du 21e siècle, c'est plus du tout la même configuration que ce que nos confrères ont pu couvrir pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple. C'est plus des questions de guerre de tranchées, ligne de front, enfin, ça n'existe plus. Sur ce terrain-là, comment on gère son travail de reporter? Parce que finalement, la guerre, elle est à tous les coins de rue et le danger, il peut être dans une théière qui peut exploser quand on ouvre une porte, il peut être au sol. Comment on navigue?
Alors, il y a des moments où on peut passer 10 jours à essayer de faire un reportage, simplement essayer de... Voilà. Et il y a des jours qui en valent 10. Ce jour-là, c'était celui-là. Cette unité des forces spéciales de la police irakienne que je suivais, j'avais fait leur connaissance quelques temps avant. J'étais allé les revoir, j'étais allé les re-revoir. En faisant ce travail régulier, j'ai réussi à avoir une sorte d'accès privilégié. C'était aussi parce que je commençais vraiment à bien connaître et voir la façon dont on peut négocier notre entrée sur ce genre de terrain. La bataille de Mossoul est très particulière et sera très particulière, je pense, dans l'histoire du journalisme, parce que on a accès à des choses. On est très près du feu. Voilà. On est très près du feu. La question, c'est toujours, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Ça vaut jamais le coup de mourir pour une histoire, ça ne vaut jamais le coup de mourir pour une photo. Mais en tant que reporter de guerre, on sait que ça peut arriver. Voilà, et il faut être en paix avec ça. Quand on fait de la pénétration, c'est-à-dire qu'on entre avec une unité de l'armée dans un quartier qui n'est pas encore libéré, ce qu'on trouve, c'est une sorte de matière brute. On est plus près du volcan, et en tant que sorte de vulcanologue de l'actualité, on est au plus près du volcan, on comprend comment ça se passe. Quand on voit une unité de l'armée irakienne libérer des gens, les épauler et leur dire « sortez, par là, c'est plus en sécurité », on remet un peu en question cette idée que ces soldats chiites vont forcément brutaliser ces sunnites. Après, il y a bien sûr des problèmes, et il faut les raconter, il faut bien sûr raconter l'arrière, là où se passent en général tous les problèmes. Comme dans n'importe quelle guerre, le problème, ce n'est pas forcément les forces d'attaque, ce sont les forces d'occupation. Mais quand on est près de cette matière-là, on se rend compte qu'on a quelque chose, un matériau, encore une fois, très pur et très fort. On part avec un ami photographe qui travaillait pour Paris Match à ce moment-là, Alvaro Canovas. Et grâce aux accès que j'avais réussi à négocier, là, on suit cette unité de l'armée, des forces spéciales de la police irakienne qui débarque. Et là, on est au cœur de la guerre. Là, à peu près, pas loin, hein, à 50 mètres à peine, tout d'un coup, il y a un appel. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a une voiture suicide qui surgit. C'est pour ça que j'étais sur la photo précédente couvert de poussière. Ça éclate. Et ça pète dans tous les sens. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut suivre les militaires et puis raconter leur histoire. C'était encore cette journée-là, une journée où l'histoire s'est construite sous mes yeux et où j'ai su la suivre, où j'ai commencé à suivre ces gars-là qui se sont pris 3 voitures suicides d'un coup. Ils sont choqués. C'est un boxeur qui titube. Il se prend 3 supercuts d'un coup. C'est un boxeur qui titube, qui tient quand même sur ses jambes, mais qui titube. Donc je vois ça, j'explore ça, je reste à leurs yeux, j'essaie de trouver l'endroit où je suis le plus possible à l'abri. Et la meilleure position, c'est de regarder, d'être la petite souris. Puis ensuite, ils commencent à reprendre leurs esprits et à reprendre l'offensive. Ils ouvrent et ils pénètrent dans un autre bâtiment. J'attends que la première unité pénètre. Je rentre avec, nous rentrons avec Alvaro avec l'unité suivante. Et là, il voit, alors qu'on était dans des galeries de béton armé, là, tout d'un coup, dans un hôtel qui était occupé quelques minutes avant par l'État islamique, ils arrivent à identifier les positions, ils arrivent à identifier les positions amies, ils arrivent à identifier les positions ennemies, ils peuvent appeler la coalition pour procéder à des frappes aériennes. Il faut aussi signaler la position aux forces, à leurs amis, à leurs forces, aux forces alliées. C'est là qu'il y a un vieux gars qui avait une quarantaine d'années, qui était couturier de partout et qui a fait toutes les guerres que l'Irak a comptées, et Dieu sait s'il y en a, qui se dit « j'allais planter le drapeau sur le toit ». Il boitait parce qu'il s'était fait mal au genou pendant l'attaque de la voiture suicide. Il titube sur le toit où il affronte une gale de balles. Et là, il y a un jeune qui vient lui donner un coup de main. Donc là, il y avait vraiment une histoire forte, en fait. Il y avait vraiment une histoire d'un vieux soldat qui essaie d'accrocher la peau, qui se fait aider par un jeune soldat, il essaie d'accrocher le drapeau. Il plante le drapeau, il le fixe sur le toit. Et là, je leur fais des grands signes en disant que le drapeau est à l'envers, le drapeau est à l'envers. Évidemment, ils ne comprennent pas. Et donc, ils rentrent à l'abri. Et là, je leur dis, bah oui, mais le drapeau, il est à l'envers. Et puis, les mecs me font, ah oui, écoute, c'est bon. Et voilà, et la journée se termine. Ils sécurisent leur position. Et voilà, c'était une journée dure. Dieu merci, personne n'est mort ce jour-là. Mais c'était une journée très parlante du quotidien de ces gens-là. Quand on couvre la guerre, quand on est reporter de guerre, il faut aller près de la matière qu'on affronte, la matière qu'on traite. Voilà. Donc c'était une journée très particulière où on est rentré chargé d'énormément de choses et où un peu de toute cette violence brute rentre en soi. Et qu'il faut traduire de la manière la plus claire possible. Voilà.
Comme tu le dis, le danger, il est toujours là. Il est un petit peu partout. On connaît la suite, cette explosion, enfin plus tard, hein, le 19 juin, cette explosion tragique qui a coûté la vie à trois de tes confrères. On ne va pas y revenir par respect envers les familles, parce que tu en as déjà beaucoup parlé dans les médias, mais je vais juste te poser cette question. Toi, en tant que reporter, quel enseignement tu tires en général de ta couverture de la guerre de Mossoul ?
Déjà, on était confronté à quelque chose d'immense, quelque chose de, encore une fois, l'une des plus grandes batailles urbaines de l'histoire moderne, quelque chose qu'on aura du mal à redécouvrir. On ne s'en rendait pas compte à ce moment-là. On disait, oui, c'est une très grande guerre, c'est la plus grande. Mais en fait, quand on est dans l'événement, parfois, c'est difficile de réaliser l'immensité de ce qu'on traite. On l'aborde par pas à pas. Mais il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que le reportage de guerre, il n'y a pas que on va aller au plus près et on va raconter le quotidien des soldats. C'est important de faire ça. C'est aussi important de raconter les à côté, de raconter comment les forces d'occupation se comportent avec les civils. C'est comment j'ai fait une enquête assez longue qui m'a pris beaucoup de temps et qui était un vrai défi sur la vie des djihadistes français. Comment ils vivaient, les djihadistes français, à Mossoul? Et à force de creuser, à force de regarder, à force de demander, à force d'essayer de voir derrière la porte, c'est très difficile parce que tout le monde a peur de parler. La peur est encore là parmi les gens. Ils ont peur ne croient pas du tout que la ville est reprise par les forces irakiennes. Ils croient que les forces irakiennes ne font que passer, qu'ils vont repartir le lendemain et qu'à nouveau, ils vont se faire occuper par l'État islamique. Alors que non, là c'était une vraie contre-offensive, c'était une vraie guerre et les forces irakiennes étaient vraiment là pour reprendre le contrôle de la ville. Donc voilà, il faut aller passer du temps avec les civils. Je crois que je suis l'un des premiers reporters à avoir passé une nuit à Mossoul très très tôt après la libération auprès d'un type que j'avais rencontré, en qui j'avais une entière confiance. Et qui et vivre le quotidien de ces civils était aussi fascinant de voir l'abandon complet dans lequel ils étaient la nuit et le jour timidement les soldats irakiens qui revenaient et c'est là où j'ai découvert dans une maison de Mossoul qu'un djihadiste français avait dessiné la tour Eiffel écroulée, attaquée par des blindés de l'État islamique. Tout ça, c'est des choses très fortes. En fait, on a l'impression d'être des explorateurs qui rentrent dans un autre monde, qui découvrent quelque chose de nouveau. Voilà, mais il faut aussi raconter tous les à côté d'une bataille immense. Donc, il y a la première ligne, ce qui est très importante et qui est le cœur du métier. Et auprès de laquelle on finalement, en tant que reporter, on tombe toujours sur les mêmes. Voilà, il y a des grands noms de la guerre qui ont traité cette bataille, qui ont été primés, comme Laurent Van Der Stock ou comme ma consoeur Gwendoline de Bonneau en radio, qui était très très près. Et souvent, je s'y retrouvais sur place. Et puis ensuite, il y a la deuxième ligne qu'il faut traiter. Et il y a la troisième ligne qu'il faut traiter. Et après, il faut aussi toujours garder à l'esprit le contexte politique, il faut comprendre et toujours remettre en situation l'immensité de cette bataille. J'ai essayé de la traiter la mieux possible. J'étais très fortement soutenu par ma rédaction qui m'a fait une réelle confiance sur... et je réalise maintenant, enfin, parce que c'est pas forcément évident d'accorder la confiance à quelqu'un pour traiter ça, et qui envoyait aussi des envoyés spéciaux, parce que quand on est correspondant, moi j'étais installé à Erbil juste à côté de Mossoul, quand on est correspondant au bout de la dixième fois, on voit plus les destructions, on voit plus les ruines, on voit plus les cadavres, on voit plus ça. C'est pour ça que c'est important à ces moments-là de ramener des regards neufs et qui enrichissent encore le traitement de cette guerre. Je crois que le traitement de la presse française en général sur cette guerre, parce qu'elle nous concernait, parce qu'on a été frappé, parce que la France a été frappée par des attentats très durs, les attentats de Charlie, les attentats du 13 novembre, la couverture de la presse française a été très forte. Elle s'est vraiment emparée de cette actualité, on l'a traité en tout cas de très très près.
Alors avant de passer la parole au public, j'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Peut-être une dernière question sur l'après aujourd'hui, la suite. Est-ce que tu es toujours animée par cette envie de retourner au Moyen-Orient, de continuer à suivre les soubresauts post-printemps arabe qui finalement s'étalent dans le temps? Ou est-ce que tu as envie d'aller explorer d'autres contrées, d'autres horizons, voire te recentrer sur la France? Quels sont tes projets pour la suite?
Alors, ce qui est sûr, c'est que je retourne dans la région, ça c'est très clair. Il y a encore plein de choses intéressantes qui vont se passer et dont il faut parler pour continuer à comprendre et à expliquer le contexte et montrer que rien n'arrive par hasard, c'est parce qu'il y a des choses qui sont passées avant. Commencer le Moyen-Orient par la révolution égyptienne et le finir par la bataille de Mossoul était... Va falloir... je pense que c'est important pour moi de prendre la distance maintenant et d'aller raconter d'autres choses. On a la chance de faire un métier où on peut aussi explorer d'autres dimensions. Moi, il y a plein de choses que j'ai envie de raconter. Voilà. Et puis, en plus, couvrir... là, tout simplement, en Irak, les offensives sont très brèves. L'État islamique a véritablement été écrasé à Mossoul. Donc il va falloir... j'ai envie de raconter d'autres choses. J'ai envie de raconter, par exemple, la construction de Mossoul, mais j'ai aussi envie de raconter des thématiques plus en France. Voilà, il y a plein de choses qui m'intéressent, donc j'ai envie d'explorer d'autres choses parce que le grand reportage se passe aux antipodes, il se passe aussi au café du coin. Voilà. Et il faut y aller avec le même état d'esprit et la même obstination et la même envie de faire partager des choses qui peuvent se passer à côté de chez vous. Et on l'a vu de façon très forte quand les confrères français ont couvert les attentats du 13 novembre. Ils ont raconté des choses auxquelles j'étais habitué au Moyen-Orient depuis très longtemps. Et c'est là, je crois, la première fois que je me suis dit... Mais il serait peut-être temps de rentrer en France. Voilà.
Merci beaucoup, Samuel.
Merci.
On va faire circuler un micro dans la salle. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Samuel. Monsieur ?
Bonsoir. Comme vous savez, après la fin de la guerre mondiale 45, depuis 45, tous les pétroles du Moyen-Orient et le gaz naturel est exploité par les sociétés anglo-saxonnes. Les Américains, ils ont créé leur empire avec cette exploitation de ce pétrole. Et actuellement, je me demande... On sait qu'un grand pays comme les États-Unis ou la Russie, pour exercer leur pouvoir, pour vraiment dominer le monde, ils jouent le jeu de diviser les ennemis. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous avez eu des bruits dans les lieux où vous étiez, comme nous avons ici entendu à Paris, qu'en réalité, Al-Qaïda et Daesh, ce sont des créations de la CIA.
Ça commence fort. D'une part, les États-Unis ont joué le jeu, les États-Unis et la coalition qu'ils ont entraînée derrière elles ont joué le jeu pour cette guerre et pour cette bataille de Mossoul précisément, de l'Irak et de l'État irakien. C'est-à-dire que les troupes qui sont allées reprendre Mossoul et qui étaient le fer de lance, qui étaient les reins du fer de lance de la reprise de Mossoul, étaient des troupes qui veillaient à garder la diversité de l'État irakien et qui étaient justement là pour faire un travail de soldat et pas pour faire un travail de milice. Voilà. Sur le fait que Al-Qaïda et l'État islamique soient des créations des États-Unis, non. L'apparition de l'État islamique s'explique. Elle s'explique notamment par les erreurs des États-Unis. Mais personne, je crois, n'a voulu l'apparition d'une idéologie suprémaciste sunnite et d'une, de cet État totalitaire au Moyen-Orient de façon voulue, parce que on se fait toujours dépasser par ces ennemis-là. Ceux qui ont encouragé la création de l'État islamique, c'était les anciens officiers, notamment de Saddam Hussein, des gens dont on disait qu'ils étaient laïcs, qu'ils étaient au service d'un État. Non, il y en a qui ont contribué à la création de cet État islamique. Voilà. Alors, on est face aux prises d'une actualité très complexe, en plus avec tout cette immense faute, qui n'est pas une erreur, cette immense faute des États-Unis d'avoir déclenché une guerre en Irak sur un mensonge. Nous, en tant que journalistes, on est confrontés à ça. C'est un travail de Romain de sans cesse reprendre, essayer de comprendre, essayer effectivement de se débarrasser des faux-semblants, essayer de ne pas entrer dans une propagande, parce qu'il y a évidemment des propagandes dans tous les sens. Mais voilà, on essaye de s'emparer de ces actualités. Tout simplement, pour la révolution égyptienne, on m'a dit quand je suis entré en France, mais c'est pas une création des États-Unis, c'est difficile de mettre des millions de personnes dans la rue, surtout que Moubarak était soutenu par les États-Unis, donc c'était joué contre leur camp. Et là, c'est pareil. Il faut aussi voir que les conspirations. On aimerait que le monde soit aussi simple, en fait. On aimerait que le monde soit aussi simple et se soit expliqué par une grande conspiration mondiale contre un ennemi, pour s'emparer des ressources, etc. Non, l'apparition islamique, malheureusement, a été aussi favorisée par le départ des États-Unis d'une région dont ils se désintéressaient. Voilà, dont ils voulaient se désintéresser. En tout cas, c'était l'époque d'Obama, où ils se disaient, nous, on produit notre pétrole avec notre gaz de schiste, on est devenu un des premiers producteurs mondiaux. Sécuriser nos ressources en mettant des dictateurs, ça ne nous intéresse plus. C'était l'hypothèse d'Obama qui s'est désengagé de l'Irak et qui ne s'est pas engagé sur la Syrie. Et qui a amené, effectivement, par une autre erreur dramatique, à vouloir trop intervenir en 2003 et pas assez intervenir en 2013, à la création d'un tel monstre.
Monsieur, en fait, nous sommes dans un débat avec un journaliste.
Ça existe, la CIA existe. Donc, quel travail font-ils? Ils sont là, ils font leur travail.
Je ne crois pas que ce soit non plus forcément ton domaine d'expertise.
Je pense que tout service de renseignement travaillant pour chaque pays fait son travail sur le terrain. Il y a la CIA, mais il y a d'autres, il y a d'autres pays qui ont leur service sur place, mais je pense que c'est peut-être un autre débat qui est également passionnant.
Alors, on va terminer là. La CIA est présente sur le terrain, fait son travail de protéger les intérêts des États-Unis. Pour le coup, les intérêts des États-Unis étaient relativement cohérents avec ceux de l'État irakien à l'époque. Je ne nie pas que la CIA ait commis des agissements répréhensible par l'OTAN, mais effectivement c'est pas le lieu, et là pour le coup on n'était pas sur une conspiration mondiale pour détruire l'Irak, là pour le coup c'était plutôt une sorte d'organisation et de coalition pour essayer de tenir à bout de bras un pays qui a été mal formé depuis le début.
On va prendre une question au fond à gauche.
Bonsoir, moi j'avais une question sur le futur de l'Irak post-Daesh et votre vision un peu justement sur les zones maintenant qui sont aussi sensibles, mais plus, enfin, pour des raisons un peu plus internes, comme Kirkuk ou le Sinjar. Donc voilà, comment vous voyez ça maintenant, pour l'avenir proche?
C'est une très bonne question. Kirkuk, c'est, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas forcément, c'est l'un des plus beaux... Kirkuk est un trésor. Il produit un très bon pétrole qui est très facile à exploiter. Kirkuk était aussi une ville qui était entre les mains, qui était considérée par les Kurdes comme leur Jérusalem et dont ils ont toujours voulu s'emparer. En juin 2014, à la faveur de l'écroulement de l'État irakien, les Kurdes s'emparent de Kirkuk alors que les forces armées irakiennes fuient l'État islamique. Hier soir, à 23h30, heure irakienne, les forces irakiennes fondent sur Kirkuk et se réemparent des champs de pétrole. Je crois que les acteurs essayent. Je crois qu'il s'agit d'une sorte de reprise en main par l'État irakien et qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle guerre déclarée par l'armée irakienne. Ça peut dégénérer, mais j'ai l'impression, de ce que j'ai vu pour l'instant, que les combats restent encore mineurs et que les Kurdes ont compris que face à un État irakien renaissant et sûr de ses forces, ils ne pourront pas garder Kirkouk. En tout cas, ils ne pourront pas garder Kirkouk pour eux tout seuls. Voilà. Et que l'État irakien essaye de réexister et que l'État irakien, que Kirkouk n'appartient pas à une communauté précise, qu'elle soit kurde, qu'elle soit arabe, qu'elle soit chiite, qu'elle soit sunnite, qu'elle soit turkmène, etc. etc. Voilà. C'était, on va voir comment ça va se passer. C'est très fragile. On est sur des choses très très dures parce qu'il y a un référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien le 25 septembre dernier, où évidemment les votants ont répondu massivement pour l'indépendance du Kurdistan irakien. Mais Bagdad, qui est donc le centre, un peu comme Madrid serait à traiter avec Barcelone, Bagdad essaye effectivement de garder la main sur le Kurdistan irakien. C'est un gros problème pour l'Irak. C'est un très gros problème pour l'Irak parce que le Kurdistan étant une zone stable, le Kurdistan va être essentiel pour la construction de Mossoul, qui va être l'un des enjeux, encore une fois, de stabilisation les plus décisifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Si on ne sauve pas l'Irak, si on ne sauve pas Mossoul, et si on ne vient pas en aide aux civils, on aura peut-être gagné la guerre, mais on ratera la paix.
Une question ici.
Merci. J'ai été très sensible par votre parole d'érudition, parce que vous êtes journaliste, mais vous êtes aussi, comme vous l'avez dit plusieurs fois, vous avez préparé le terrain en vous renseignant. Il y a aussi une parole de sensibilité, il y a aussi une prise de parole intellectuelle. Vous êtes tout en même temps. Et je trouve ça très intéressant et j'ai été très intéressé. Alors je voudrais vous amener à faire un parallèle entre la guerre de l'État islamique avec les guerres du Troisième Reich. Je vais vous dire pourquoi je vous fais cette chose-là. Il y a un livre qui vient de paraître qui s'appelle « La guerre allemande » par un historien professeur à Oxford. Et c'est un peu le même travail que vous, mais lui, c'est de la pure érudition. Il a étudié la guerre, les guerres du Troisième Reich à partir des courriers des gens qui combattaient et de leurs familles qui étaient restées là. Et alors, ce qu'il voit, c'est que progressivement, les gens supportent, soutiennent et deviennent des acteurs de la guerre. C'est-à-dire, progressivement, le régime nazi est arrivé, en quelque sorte, à faire que les guerres du Troisième Reich soient les guerres de la Wehrmacht, les guerres des SS, mais également les guerres de la population, où la population a été complètement intégrée là-dedans. Est-ce que vous diriez que l'État islamique, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il a utilisé un processus de fascisation de telle manière à entraîner avec lui, dans le chaos, toute une population, et qu'il l'a idéologisé par de différentes manières pour l'amener à soutenir un processus qui finalement l'amènera à périr avec lui.
Merci pour cette question. L'État islamique est un totalitarisme. Donc ça, c'est très clair. Il vise au contrôle total des individus, des esprits. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps d'installer leur idéologie parce qu'ils ont été combattus très très vite et parce qu'on a vu arriver l'apparition d'un système totalitaire. C'est pas si courant que ça. Et là, il apparaît au cœur de l'une des religions les plus sensibles du monde. Il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire. Je pense pas que je suis pas un chercheur à Oxford pour poser ces parallèles, mais c'est vrai que l'ampleur de cette bataille invite effectivement à se remémorer quelques souvenirs et notamment leur capacité à vouloir éliminer tout ce qu'ils n'étaient pas. C'est-à-dire que pour la première fois, par exemple, l'État islamique a fait une tentative de génocide sur le peuple yézidi, qui est une minorité en Irak qui a des croyances très anciennes et très ésotériques, qui étaient considérées comme des adorateurs du diable par l'État islamique. Les Yézidis ont toujours réussi à cohabiter plus ou moins en paix avec leurs voisins. Là, pour la première fois, ils ont été visés en tant que peuple. Que serait-il passé si on avait laissé cette idéologie prospérer ? Je ne sais pas. Je suis journaliste. J'essaie de raconter ce qui se passe. En tout cas, c'était réellement inquiétant. Et il y avait réellement une politique de terreur sur les populations pour les convertir et puis ensuite leur montrer, non pas essayer de les convaincre, mais essayer de les transformer pour changer leur regard sur le monde et montrer que... Il n'y avait pas de problème à faire de génocide. Au point où on en était, ces gens sont des adorateurs du diable, il faut les éliminer. Voilà, donc on peut dresser quelques parallèles. Dans un registre plus littéraire, je pense, je crois qu'il faut toujours revenir à la Première Guerre mondiale, qui était la Grande Guerre industrielle, le moment où on arrêtait de faire des grandes charges en grand uniforme. Et le moment où on a commencé à vouloir se cacher, vouloir se transformer et vouloir ressembler au terrain. Je suis un grand lecteur donc, de cette littérature de la Première Guerre mondiale. Et j'ai lu notamment dans un livre qui s'appelle « Orage d'acier » des passages qui rappelaient vraiment ce que j'ai vécu à Mossoul et dont je me suis inspiré pour écrire. Où il décrivait les pièges explosifs que l'armée allemande laissait derrière eux pour rendre plus difficile la reprise des territoires par les forces de l'entente. Donc on lit la Seconde Guerre mondiale, c'est très étonnant. Il y a effectivement des échos étranges de guerre déjà passée quand on est confronté à une telle guerre, et surtout là face à un ennemi qui grosso modo faisait l'unanimité contre lui.
Bonsoir. J'avais deux questions pour vous, une un peu personnelle et puis l'autre par rapport à la situation du Moyen-Orient. Je vais peut-être commencer par celle qui est un peu plus personnelle. On a écouté, grâce aux différents extraits de vos articles, que j'avoue, je n'avais pas lu. Et donc, personnellement, j'ai été assez touché par votre talent d'écriture. En tant que journaliste, quels sont justement vos souhaits ? Est-ce que vous avez envie de faire un livre comme Madame Minoui a fait ? Est-ce que vous avez envie de repartir sur un nouveau terrain ? Parce que vous avez dit justement que vous aviez envie de partir, de sortir de cette région difficile. Comment un homme, je ne sais pas quel âge vous avez, si je peux me permettre.
36 ans.
Voilà, comment un homme de 36 ans qui est dans une étape importante de sa carrière, après un grand prix, voit son avenir. Est-ce que vous avez envie de vous poser d'écrire ou de repartir sur un terrain aussi violent, aussi dur, aussi fascinant, malheureusement ? Ça, c'est la première question.
D'accord. Je réponds maintenant ou je prends les deux questions ?
Bah, l'autre question n'a aucun rapport. Donc
D'accord. Alors... Je veux retourner dans ces zones-là et je pense que j'en ai pas fini avec la guerre. Sur Mossoul, il y a un documentariste qui s'appelle Olivier Sarbil, qui est un Français, et qui a suivi cette guerre en suivant les forces spéciales de l'armée irakienne pendant 4 mois, et qui a fait un travail très intéressant. C'est un film d'auteur, déjà. Et il regarde cette situation avec le regard de quelqu'un qui a déjà connu la guerre, qui a déjà vu la guerre. Il a fait beaucoup de terrains de guerre, il a fait beaucoup de terrains durs. Il a été blessé en Libye, très gravement blessé. Il a perdu quelques doigts de la main droite et des morceaux entiers de chair sur les jambes. Il est revenu là-bas. Mais il est revenu avec un regard différent. Il est revenu avec le regard de quelqu'un qui avait mûri et qui avait envie de raconter d'autres choses et qui allait plus en profondeur, plus en finesse, plus proche. Et on était vraiment au contact de ces soldats. Et, et qu'on présentait plus. Alors, on a critiqué selon le fait qu'il n'apportait pas de contradiction. C'est le film d'un auteur. Il s'intéresse à ces hommes qui sont confrontés à un événement plus grand qu'eux, et qui essayent de le vivre et qui essayent de faire leur travail, parce qu'à la fin, c'est un travail. Voilà. Je sens que à un moment donné, j'aurais envie de repartir pour voir moi comment j'ai mûri, pour voir avec d'autres, en travaillant pour un autre support qu'un quotidien ou etc. Je suis en train d'écrire un livre par ailleurs, donc voilà, et parce que aussi c'était la façon de poser des choses et des réflexions sur un autre temps d'écriture. Voilà, mais après il va aussi, encore une fois, je pense que la bataille de Mossoul est exceptionnelle aussi parce qu'il y avait cette proximité avec le terrain que je pense on aura beaucoup de mal à retrouver dans d'autres guerres. C'est pas possible avec les forces françaises par exemple d'être aussi au contact avec l'ennemi, c'est pas possible avec les Américains, etc. A priori, je crois qu'on reste très en arrière. Donc de toute façon, ce seront d'autres terrains, d'autres guerres, d'autres situations. Et je pense que j'ai envie de le réexplorer, de les raconter d'une façon différente. Parfois, on a l'impression que, en tant que journaliste, je ne sais pas si tu as eu cette même impression, Delphine, mais on est confronté à une chose, il y a une sorte de palimpseste, une sorte de réécriture d'événements, et on essaye à chaque fois de trouver, d'affiner à chaque fois la musique qu'on a déjà identifiée quelque part, qu'on entend à nouveau quelque part, des rythmes, des choses qu'on entend de témoignages historiques d'anciennes, d'autres guerres. Et ce regard s'ajuste, s'affine, se rapproche et donne envie en fait de continuer. Voilà. Là, j'ai envie de faire d'autres choses. Donc j'écris. Je vais travailler, je sais, pour les prochaines années à venir à Paris, mais je vais continuer à partir à l'étranger. Donc je ne m'interdis pas du tout de revenir sur la guerre. On verra ce que ça va donner. Voilà, il faut aussi être ouvert à d'autres possibilités. Mais encore une fois, on fait un métier qui permet de faire des choses très différentes. Et là, j'ai envie d'aller écouter d'autres musiques.
La deuxième question, c'était... je viens de lire un livre de Florian Louis qui s'appelle « Un certain Orient ». Qui raconte l'histoire du Moyen-Orient de 1876 à 1980. Pardon. Et il y a deux pages dans ce livre qui vont certainement vous interpeller, où c'est deux articles d'Albert Londres. Et deux articles d'Albert Londres qui décrit en 1927-1928 la situation en Palestine, et un autre article qui décrit la situation du mandat français en Syrie. Lorsqu'on lit, je suis lecteur de 38 ans, 2017, lorsqu'on lit de manière assez brutale ces deux articles, on a l'impression que ces deux articles ont été écrits en 2017. Ma question, et justement je pense qu'elle peut vous toucher parce que vous avez reçu justement le prix Albert Londres, est-ce que vous n'avez pas l'impression que depuis toutes ces années dans cette région, que ce soit... en Irak, en Syrie, au Proche-Orient aussi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une espèce de statu quo, alors que les solutions, on les a plus ou moins, en tout cas analysées, identifiées, potentiellement décrites, mais qu'il y a une espèce de statu quo qui, sans tomber dans le spectre de la manipulation ou... de ce dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un laisser-faire qui convient à certaines puissances et qu'on n'a surtout pas envie en fait d'avancer et de pacifier cette région? Je pense par exemple au demi-tour américain à l'été 2013 où on n'a pas voulu bombarder alors qu'une ligne rouge avait été largement dépassée.
Déjà, c'est effectivement, on a l'impression que l'histoire se répète. C'est malheureusement, il y a des tendances très lourdes. Hein, on le voit aujourd'hui en Europe, la Catalogne qui veut devenir indépendante, c'est pas la première fois. Il y a des tendances lourdes partout dans le monde. Je pense qu'un Moyen-Orient pacifié, cette région pacifiée, apportera beaucoup de paix au monde entier. Pardon que. Je pense que pour les États-Unis qui... en 2013, effectivement, il y a un demi-tour. Une ligne rouge a été franchie. Et Barack Obama a décidé de ne rien faire pour des raisons qui lui appartiennent. mais qui a permis aussi à la Russie de rentrer dans le jeu, etc. En fait, je ne sais pas si on a trouvé des cadres d'analyse qui marchent. En fait, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. C'est aussi une région qui a son propre espace et que j'ai voulu et que j'ai tenu à décrire de l'intérieur, à sortir du regard de l'Europe vers le Moyen-Orient, mais plutôt d'être au Moyen-Orient et voir les choses qu'on fait. Malheureusement, il y a énormément de conflits qui ne sont pas réglés, de pays qui sont nés de frontières qui sont incohérentes, qui ont été effectivement tracées par exemple pour l'Irak et la Syrie, par les Anglais et les Français. Écoutez, je vais prendre une métaphore, parce qu'on peut, peut dire, mais ça ne marchera jamais, et puis finalement, on peut s'en contenter. Au nord de Mossoul, non, c'est dire à quel point l'Irak est un pays qui porte beaucoup de blessures en lui. Au nord de Mossoul, il y a un barrage qui a été construit sous Saddam Hussein. Étonnamment, pour ce barrage, il a choisi des ingénieurs tchèques, alors que Saddam Hussein était connu pour ne choisir que le meilleur de l'ingénierie dans toutes les dimensions. Mais cette fois-ci, il choisit des gens qui manquaient visiblement d'expérience dans la construction des barrages et qui a construit quelque chose qui a mal construit ce barrage. Et ce barrage qui essaye d'être rattrapé depuis des années par toutes sortes d'ingénieurs qui essayent de le reboucher, de le recolmater sans cesse. Ça ne marche pas parce que quand on bouche là, il y a une autre fissure qui apparaît là. Le barrage a été mal construit à l'origine et menace sans cesse d'éclater. J'y vois une métaphore de ce que peut être l'Irak. Un Irak qui est un pays construit de briques et de brocs, qui est comme une certaine réalité historique, parce que le mot Irak ne date pas de 1920, mais qui a du mal à exister. Et qui se fissure sans cesse de partout et qui sans cesse menace d'exploser. Vis-à-vis de ça, il faut déjà beaucoup de modestie. Je pense qu'il faut continuer à raconter, même si on a l'impression que l'histoire se répète, elle n'est jamais tout à fait pareille. Là, effectivement, pour la première fois, il y a une expérience totalitaire au Moyen-Orient qu'on n'a pas vue. Je pense aussi que, au long terme, il y a des choses qu'on ne pourra pas empêcher. On ne pourra pas empêcher le fait national kurde à un moment de s'exprimer. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Il y a des grandes tendances. Il y a 30 millions de Kurdes à cheval sur 4 pays. Je ne vois pas comment ils pourront continuer à exister dans des États-nations qui sont formés de briques et de brocs. Nous verrons bien. De toute façon, il faut toujours une très grande modestie vis-à-vis de ces situations. Et les traiter de la façon dont elles apparaissent. Et Dieu merci. Je ne suis que journaliste, je ne suis pas décisionnaire, je ne fais que raconter. Je pense que l'un des pires jobs du monde en ce moment, c'est Premier ministre en Irak. Et ce garçon-là ne joue pas la guerre à outrance, en tout cas ne joue pas la guerre contre les civils. On a quelqu'un qui est plutôt bien placé, qui est plutôt neuf dans la région, dans le sens où il n'a pas envie de mettre en place une sorte de contrôle social sur les populations. Mais il va y avoir des élections en avril 2018 en Irak, et ça se trouve, il va être dégagé. Donc qu'est-ce qui va arriver après, etc. Si, par exemple, Haïdar al-Abadi, le premier ministre actuel, quitte le pouvoir, on risque de revenir 10-15 ans en arrière. C'est les impératifs. Alors on pourrait dire, mais il ne faut pas tenir d'élections. En même temps, ne pas tenir d'élections, c'est aussi figer des États dans des dictatures qui n'en finissent jamais. Je n'ai pas la solution, je ne suis que journaliste.
Alors, comme l'heure tourne, je suis désolée, on va prendre une courte dernière question.
Bonsoir. En fait, ma question, c'est... quand vous étiez au CELSA, est-ce que vous avez vu venir... être un reporter de guerre, aller dans une guerre et être journaliste là-bas. Et est-ce que tout journaliste peut être un reporter de guerre?
C'est ma question. C'est Ihab. Ah, mais un ancien partenaire de manifestation au Caire, voilà, que je suis enchanté de revoir ce soir. Je pense que je voulais être grand reporter et je pense que je voulais être reporter de guerre. Le truc, c'est que je voulais pas forcément me l'avouer. C'est très difficile. Enfin, on se dit, je vais être grand reporter, mais ça paraît totalement incohérent. Et d'ailleurs, à l'oral au CELSA, l'oral que j'ai pas très bien réussi, On m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu veux être à 40 ans? Et moi, j'ai dit, je vais être grand reporter à l'étranger. Et y a l'un des membres du jury qui m'a regardé et qui a levé les yeux au ciel en disant, mon pauvre gars, c'est vraiment pas fait pour ça. J'ai un souvenir ému pour ce garçon, à qui je n'en veux pas évidemment, mais en fait on ne sait pas très bien, on a envie de s'emparer de quelque chose, d'une histoire et d'un événement, et à un moment donné on est porté par quelque chose qui je pense est plus grand que soi, on a envie d'aller voir, donc c'est et en fait, et puis après, on tient et on a envie de continuer. Donc c'est peut-être ça, en fait. Je pense que c'est surtout, c'est avant tout de l'obstination. Il faut recommencer et pas hésiter, en tout cas, à avancer, même s'il y a des moments qui sont très très durs. Mais en tout cas, je veux pas du tout me donner un exemple. Je pense pas que je suis un bon. Enfin, je pense qu'il y avait des manières beaucoup plus simples d'avancer sur ce terrain. Mais voilà, j'y suis allé comme ça. Et j'ai continué et j'avais envie de raconter des choses qui sont entrées en écho avec d'autres choses qui me remuaient profondément, qui venaient de mon histoire personnelle, qui venaient de lectures que j'avais déjà faites et dont j'avais envie que j'avais envie d'exprimer, voilà. Et là il s'avère que ça s'est passé sur ces terrains. Là, j'ai effectivement envie d'exprimer les choses d'autres manières, mais voilà, ça a été une école dure, mais exaltante.
Merci Samuel.
Merci beaucoup d'être venu.
Donc il me revient de remercier très chaleureusement donc Samuel Fauré et Delphine Minoui pour ce grand entretien passionnant, de vous dire qu'il a été filmé, il était retransmis en direct sur le site et que vous pourrez le retrouver grâce à nos techniciens que je remercie sur le site de la bibliothèque, et je vous invite à nous retrouver le 17 novembre, on va quitter le monde des mots pour celui des images, pour une soirée autour du photoreportage dans le cadre du Festival des Idées, avec cette année comme thème l'amour du risque, on en a beaucoup parlé ce soir et donc on continuera d'en parler le 17 novembre. Encore merci à vous deux, bonne soirée.
Merci.